Bella figlia dell'amore, schiavo son te vezzi tuoi.
Mystique d'Occident, une émission présentée par Hélène.
Nous avons ces derniers mois beaucoup parlé avec vous des lettres des Pères du désert avec ces magnifiques poèmes et pensées qu'ils nous ont livrés sur la prière du cœur et sur l'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, nous attaquons une nouvelle série d'émissions, donc également sur des grands mystiques, mais ce sont les mystiques d'Occident dont nous parlerons. Et pour cela, nous allons d'abord, pour effectuer cette transition, parler autour du Cantique des Cantiques, ce magnifique poème sacré d'entre tous de la Bible. Aujourd'hui, donc, nous sommes encore dans les homélies, la pensée et le cœur de Grégoire de Nice sur ce Cantique des Cantiques. Nous en sommes au passage où la fiancée dit à son fiancé « Dis-moi, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau, où le feras-tu reposer à midi, que je n'aille pas m'aventurer près des troupeaux de tes compagnons ?» Et le fiancé lui répond « Si tu ne le sais pas, si tu ne te connais pas toi-même, ô la plus belle des femmes, suis les traces des troupeaux et mène paître tes chevreaux et tes boucs près des demeures des bergers. » Qui tourne ses yeux vers la vie menée dans ce monde et juge que les richesses matérielles méritent d'être gardées, ne sait reconnaître ce qui lui est propre de ce qui ne lui est pas propre. Rien de ce qui passe n'est nôtre. Comment pourrait-on en effet maîtriser l'éphémère et l'instable? La nature spirituelle et immatérielle demeure absolument la même, au contraire de la matière qui passe comme s'écoulant, toujours en mouvement, et qui n'est jamais la même. Nécessairement, donc, celui qui s'éloigne de la stabilité se voit emporté du même élan que l'errance de l'instable. Celui qui poursuit l'éphémère et néglige le permanent, manque l'un et l'autre, car il a abandonné celui-ci et ne peut conserver celui-là. Voyons la gloire de l'âme et la prière finale. Sache combien le Créateur t'honore, plus que le reste de la création. Le ciel n'est pas à l'image de Dieu, ni la lune, ni le soleil, ni les astres si beaux, ni rien de ce qui apparaît dans la création. Toi seul es l'image de la nature qui dépasse toute intelligence. Toi seul, tu ressembles à la beauté incorruptible. Tu es la marque de la vraie divinité. Le réceptacle de la vie bienheureuse, l'empreinte de la véritable lumière. Si tu la regardes, tu deviens ce qu'il est. Tu imites celui qui brille en toi par la lumière, qui naît de ta pureté et qui éclaire à son tour. Rien n'est assez grand dans le monde pour supporter la comparaison avec ta grandeur. Le ciel est tout entier contenu dans l'empan de Dieu. La terre et la mer sont enfermées dans son poing. Et pourtant, lui, si grand, lui tel qu'il est, capable de tenir dans sa main toute la création, devient tout entier contenu en toi. Il habite en toi sans se sentir à l'étroit lorsqu'il entre dans ta nature. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, nous dit saint Paul à propos du Christ. De telles considérations éviteront à ton regard de se poser sur quelque objet d'ici-bas, que dis-je, pas même le ciel ne te semblera admirable. Car comment admireras-tu les cieux, créature humaine, si tu vois que tu es plus stable qu'eux? En effet, s'ils passent, toi au contraire, tu demeures à jamais avec celui qui est pour toujours. Tu n'admireras pas la grandeur de la terre ni l'infini des mers. Ta place veut que tu les domines, comme un conducteur maîtrise son couple de chevaux, en tenant ses éléments dans l'obéissance à ce qui te semble bon et dans la crainte. Car la terre est là pour satisfaire à tes besoins vitaux, et la mer, tel un cheval docile, te présente son dos et accepte l'homme pour cavalier. Si donc tu te connais toi-même, toi, belle entre les femmes, tu mépriseras le monde entier. Et constamment tourné vers le bien immatériel, tu négligeras l'errance des traces qui jalonnent cette vie. Applique-toi ainsi toujours à toi-même, et tu ne risqueras pas de te fourvoyer près du troupeau des chevreaux. Au jour du jugement, tu ne seras pas présenté comme un chevreau au lieu d'une brebis. Tu ne seras pas chassé de la droite. Écoute alors la voix douce qui s'adressera aux brebis couvertes de laine et familières. « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde », nous dit le Christ en Matthieu. Puissions-nous le mériter, nous aussi, en Christ Jésus notre Seigneur ? Gloire à lui pour les siècles des siècles. Amen. À la gracieuse cavale de l'équipage de Pharaon, je te compare, ô mon aimé. On ne peut être comparé à la cavale qui a causé la chute des chars égyptiens au fond de la mer si l'on n'est pas libéré par l'eau du mystère de la servitude imposée par l'ennemi, si on n'abandonne pas dans cette eau tout mode de pensée égyptien, tout vice étranger et tout péché. Si on ne se lève pas pur, sans rien emporter avec soi, du sentiment égyptien dans la vie à venir. Qui est parfaitement pur de toutes les plaies d'Égypte ? Qui est parfaitement pur de toutes les plaies d'Égypte ? Le sang, les grenouilles, les pustules, les ténèbres, les sauterelles, les insectes, la grêle, le déluge de feu et tout le reste, que mentionne le récit historique. Celui-là soutient la comparaison avec cette grande puissance dont la parole devient le cavalier. Tandis que le roi est en son enclos, mon parfum donne sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Les femmes qui aiment se parer, dit-on, ne se contentent pas d'imaginer des ornements extérieurs et visibles qui puissent charmer leurs proches. Elles s'appliquent aussi, en se parfumant, à rendre leur corps plus agréable à leur époux et elles cachent sous leurs vêtements le parfum dont l'action répond à ce besoin. Lorsque le parfum exhale sa propre odeur, le corps lui aussi est empreint de la fragrance de ce parfum. Telle est l'habitude de ces femmes. Voyons ce qu'ose dire la jeune fille dont l'âme est si grande. Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Il ne s'agit pas de l'un de ces arômes qui sentent bon, mais du Seigneur lui-même, devenu myrrhe en reposant dans le sachet de ma conscience, demeurant en mon propre cœur. On sait que le cœur se situe entre les seins, et la fiancée dit qu'elle porte précisément là son sachet, où elle garde son bien comme un trésor. Mais on prétend aussi que le cœur est semblable à une source de chaleur en nous. Il communique cette chaleur par les artères à tout le corps. Les membres deviennent chauds et pleins de vie, réchauffés par le feu du cœur. Ainsi, la jeune fille, qui a reçu la bonne odeur du Seigneur dans la partie maîtresse de son âme et qui fait de son cœur le sachet d'un tel parfum, s'attache-t-elle à tous les soins de la vie, un par un, pour que l'esprit qui se répand du cœur les échauffe comme il le fait des membres d'un corps. De la sorte, aucune injustice ne viendra refroidir dans quelques membres l'amour qu'elle voue à Dieu. Mon bien-aimé est pour moi comme une grappe de Chypre dans les vignes escarpées d'Engadi. Le mot Engadi signifie la fertilité de la région où la vigne a pris racine pour produire des fruits gros et délicieux. En effet, selon les géographes, le pays de Gad favorise la vigueur des grappes. Celui qui accorde sa volonté à la loi du Seigneur et qui, nuit et jour, s'en préoccupe, devient un arbre toujours vert, devant sa vitalité au cours d'eau et donnant ses fruits au moment opportun. C'est pourquoi aussi la vigne du fiancé à Gad s'est enracinée dans ce lieu fertile, c'est-à-dire dans la pensée profonde qui irrigue les enseignements divins. Et cette vigne a développé cette grappe abondante et florissante et a produit ses fruits dans lesquels elle contemple son propre jardinier et vigneron. Comme est bienheureuse une telle terre dont les fruits prennent la forme du fiancé. Celui-ci est la vraie lumière, la vraie vie, la véritable justice, comme le dit la sagesse, ainsi que les proverbes. Donc, lorsque l'on devient, par ses travaux, ce qu'il est, et regardant la grappe de sa propre conscience, on regarde en elle le fiancé lui-même, car il réfléchit la lumière de la vérité par sa vie lumineuse et immaculée. C'est pourquoi la vigne prospère, déclare, ma grappe, qui se développe en fleurissant, est la véritable grappe, celle qui est apparue sur les perches de bois, celle dont le sang devient boisson et salut, pour ceux qui sont sauvés et qui exultent. Gloire à lui pour les siècles des siècles. Amen.
Thank you.
Que tu es belle, ma bien-aimée. Que tu es belle. La parole le dit exactement à la jeune fille qui a recouvré sa beauté. Tu as cessé de fréquenter le mal et tu t'es approchée de moi. Or, plus près de la beauté originelle, te voici belle, toi aussi, et tu renvoies comme un miroir l'image de mes traits. La nature humaine ressemble véritablement à un miroir. Elle se transforme selon l'image produite par ses choix. Si elle se tourne vers l'or, elle ressemble à de l'or dont elle reflète l'éclat. Si elle réfléchit quelques laideurs, elle lui emprunte alors ses traits, car elle lui ressemble. Elle prend ainsi l'apparence d'une grenouille, d'un crapaud, d'un cloporte ou de quelque autre créature répugnante face à laquelle elle s'est trouvée. Tes yeux sont des colombes. Vanter ses yeux et dire qu'ils sont des colombes, cela signifie, si ses pupilles sont claires, elles reflètent le visage de ceux-là même qu'elles fixent. Et les connaisseurs capables d'analyser de tels phénomènes assurent que l'œil produit la vision en recevant les empreintes des images qui jaillissent des objets visibles. Pour cette raison, l'éloge de la beauté de ses yeux passe par l'image de la colombe apparaissant dans leurs pupilles, car on reçoit en soi-même l'image de ce que l'on regarde. Puisqu'il est devenu capable de recevoir l'image de la colombe, son œil pur finit par voir aussi la beauté de son fiancé. La jeune fille a en effet les yeux fixés sur la splendeur de son fiancé, maintenant que ses yeux ont eu en eux l'image de la colombe. Ombragé près de notre couche, l'époux promit. Tu es venu, en effet, dit-elle, toi, mon bien-aimé, beau, splendide, ombragé devant notre couche. La fiancée use d'une image lorsqu'elle emploie le terme « couche ». Elle signifie l'union de la nature humaine avec le divin. Tout comme le sublime apôtre consacre l'union de la jeune fille, c'est-à-dire de nous-mêmes, avec le Christ, préparant l'âme, telle une fiancée. Il déclare que la réunion des deux en un seul corps est le grand mystère de l'union du Christ avec l'Église. Il annonce en effet que les deux seront réunis en une seule chair, et il ajoute « c'est là un grand mystère, je l'entends du Christ et de l'Église. Nos toits seront de cyprès et nos lambris de cèdres. » Les cèdres du Liban, plantés par le Seigneur et dans lesquels les oiseaux font leur nid, les hérons établissant le leur dans leur sommet, les cèdres qui sont les vertus, donnent à la demeure, contenant la chambre nuptiale, toute sa stabilité. Dans ces vertus, les âmes font leur nid. Elles sont devenues oiseaux et volent au-dessus des filets. Sur ces vertus se trouve le nid du héron, que la parole appelle maison. Cet oiseau, dit-on, déteste les unions et ne s'accouple que pressé par la nature. Il pousse alors des cris rauques, car il ne les supporte guère, manifestant ainsi son aversion. Je pense que la parole signifie en énigme la pureté à travers ce nom. Le cyprès. Le cyprès dégage naturellement une bonne odeur. Lui aussi échappe à la moisissure et se plie très bien à tout travail artistique de menuiserie, car il est lisse, bien proportionné et convient aux ornements dus aux ciseaux. Les lambris sont travaillés avec art, au cours d'une vie vertueuse, comme savait l'ordonner dans le sens de la beauté et de l'harmonie le sage architecte Paul lorsqu'il déclarait « que tout se passe dignement et dans l'ordre ». Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, il fait paître son troupeau parmi les lys. L'instauration de cet ordre dont nous parlions fait progresser la beauté qui est en nous, notre nature, largement ouverte, produisant sa fleur parfumée et pure. Cette fleur a pour nom lys, dont la beauté naturellement visible en elle renvoie à l'éclatante lumière de la sagesse. La pousse surgit de la plaine pour se hisser, comme on peut le voir avec le lys. Après une forte croissance verticale à partir de la racine, comme un roseau, la tige du lys fleurit en son sommet, à une distance appréciable du sol. De la sorte, je pense, la beauté élevée demeure pure, sans être ternie par un contact avec la terre. Le cantique poursuit. Comme un lys entre les épines, ainsi est ma sœur entre les jeunes filles. Voici la progression que nous observons sur le chemin du sublime et qui se produit dans l'âme. La première étape est son assimilation à la cavale destructrice de la puissance égyptienne. La deuxième étape, c'est son rapprochement et la transformation de ses yeux en colombe. Et la troisième, à présent, c'est que l'âme n'est plus seulement près du Seigneur, mais qu'elle est appelée sa sœur. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui est mon frère et ma sœur et ma mère, nous dit le Christ dans saint Matthieu. Nous poursuivrons la prochaine fois notre prochaine émission, ces homélies de Grégoire de Nice sur le Cantique des Cantiques. Il nous parlera plus particulièrement de la blessure d'amour par la flèche du Seigneur.
C'était les mystiques d'Occident. Une émission présentée par Hélène.